Ne oldu? Bırak. Lise sont sortis d'Égypte. Les Égyptiens ont regretté de les avoir laissés partir. Ils ont décidé qu'ils allaient les poursuivre. Alors ils ont, c'est la cavalerie personnelle quasiment de, enfin c'est l'armée personnelle de Pharaon qui les poursuit. Et bien sûr, il les rattrape. Il les rattrape parce qu'à un moment où les Bnei Israël sont un peu coincés, que devant eux, ils ont la mer. Maintenant, derrière eux, ils ont l'armée égyptienne. À gauche et à droite, on peut parler, c'est le désert. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qu'on peut faire ici, c'est la panique. Oui. Ils pensent qu'ils vont se faire massacrer. Et donc ils disent à Moshe, il manquait de Kvarim, il manquait de tombeaux en Égypte, où tu nous as amenés pour crever dans le désert. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On t'avait dit que l'on préférait rester esclave en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Donc ça, c'est le ceux qui parlent, c'est donc a priori, c'est le cinquième qui était d'accord de sortir. On irait et ils disent. On voulait, on dit qu'ils étaient d'accord de sortir, mais ils lui ont dit, mais en vérité, on ne veut pas vraiment sortir. C'est pas ce qu'ils disent. Et tu nous as persuadés, quoi. Nous avons raconté des salades. Alors, mon cher ami leur a dit, Al Tiraou, ne craignez rien. On n'avait rien à craindre, en fait, parce que vous, d'accord, tenez-vous là, en quelque sorte, et regardez, observez le salut que Hachem va vous apporter, le sauvetage. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'Égypte, vous ne la verrez plus jamais comme ça. Hachem ilachem lachem va'atem Hachem va faire la guerre pour vous. Et votre contribution à la guerre, c'est taisez-vous. Taisez-vous. Mais en réalité, les Bnei Israël, quand ils ont, ils se sont plaints, en fait, c'est aussi des prières pour Hachem, quelque part. Ils en disent quelque part, ils ont pratiqué le savoir-faire de leurs ancêtres, la prière. Et curieusement, Hachem leur dit, il ne faut pas prier. Et Moshe lui-même, il continue de prier. Et Hachem lui dit, ce n'est pas le moment de prier. Et là, c'est difficile, parce que c'est quand le moment de prier si ce n'est pas maintenant? Là, il y a deux sortes de prières, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Il y a la prière, trois fois par jour, que nous on prie trois fois par jour, etc. C'est une prière régulière où on prie pour les besoins du monde. Il y a une mitzvah, un kol tzara shelo tavo, dans chaque situation difficile, on espère qu'il n'y en aura jamais, mais si jamais on atterrit, on arrive dans une situation difficile, il y a une mitzvah de prier. Oui, évidemment, dans la première version, la première. État de la prière, c'est du coup entre ça a été codifié, on a un texte bien précis, etc. Mais dans une situation de crise, etc., il n'y a pas de prière obligatoire. Ça prie, je veux dire, c'est une mitzvah de se tourner vers Hachem et de parce que c'est lui Elokeinu, c'est lui notre qui est Mashgiach sur nous, qui nous surveille, qui nous protège. Et on voit que c'était pas évident de ne pas prier, puisque mon cher Abbé lui-même prie. Hachem lui dit, Matissa Kelaï, pourquoi tu pries? Dis au Bnei Israël d'avancer. Ça veut dire qu'il y a un moment, en certaines circonstances, on te dit, même, il faut être moteur. Maintenant, c'est plus nécessaire de prier ou il faut avoir confiance. Avoir confiance, ça veut dire, là, c'est même plus de l'ordre de la prière. C'est un peu comme le petit enfant qui s'abandonne complètement dans les bras de sa mère. Un bitachon complet. Quand est-ce que c'est bitachon? Quand est-ce que la prière s'arrête et il faut passer au stade de bitachon? J'en sais rien. Visiblement, Moshe Rabbeinu lui-même ne savait pas. Mais visiblement, il y a un moment où il faut passer à l'étape. Alors, on peut prier, mais même si on est plein de bitachon, on peut considérer que c'est quand même, bon, je vais prier. Je veux dire, même si, au fond, il ne faut pas prier, mais là, en l'occurrence, ils doivent avancer. Et avancer, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on leur dit? Avancer? Mais où ils vont avancer? Il faut entrer dans la mer. C'est pas avancer, pourquoi vous arrêtez? On s'arrête parce qu'on peut pas, on peut pas, on peut plus avancer, c'est la mer. Dis-leur d'avancer, c'est-à-dire entrer dans la mer. La mer, elle n'est pas ouverte, hein. Entrer dans la mer. Quand ils vont arriver à ce que l'eau arrive à la hauteur du nez, donc on peut plus avancer maintenant dans l'eau. La mer se fend. Alors, Hachem dit à Moshe, étends ton bras, ben, prends ton bâton, étends ton bras, et fends la mer. C'est intéressant quand même que Hachem ilachem lachem. Hachem va combattre pour vous. J'aime à faire la guerre pour vous. Mais ça passe quand même par un geste prescrit à Moshe Rabbeinu. Si j'avais écrit moi le scénario, hein. Vous avez l'air sceptique. C'est pas sympa, alors, moi, j'aurais écrit Hachem a ouvert la mer. J'ai mis la crème là. Hachem qui ouvre la mer. Pas du tout. Ça passe par moi, cher Abin. Mais on avait déjà, je crois l'avoir dit la semaine dernière, déjà dans les Makot, quand Hachem avait envoyé une Maka, et quand Paro disait, OK, je vais obéir, mais enlever la Maka, Moshe Rabbeinu doit sortir de l'Égypte, enfin sortir de chez Paro et de la ville, parce que comme j'ai déjà expliqué qu'il y a tellement d'idoles là-bas que Moshe ne pouvait pas prier Hachem, mais il sort de l'endroit où c'est infesté d'Avodazara, et il prie Hachem, il demande à Hachem d'arrêter la prière. Pourquoi ça ne s'arrête pas tout seul, puisque c'est ce qu'on voulait, c'est qu'ils disent oui. Pourquoi il faut encore prier à ce moment-là? Visiblement, il y a une volonté d'Hachem de ne pas agir tout seul, en fait. On peut parler comme ça. Hachem veut que les hommes soient partie prenante dans la direction du monde, en fait. Même quand on dit Hachem ilachem lachem, ok, mais vous allez devoir faire quelque chose. Et là, on voit aussi que quand je parlais de bitachon ici, le bitachon, ça veut dire avancer maintenant. Nous avons avancé dans un milieu hostile, dans la mer. La mer, elle n'est pas faite pour être traversée à pied sec, hein. Donc il y a aussi une demande, faites quelque chose, vous. Vous faites quelque chose, vous avancez. Donc on fait les choses à deux, vous me faites confiance, donc vous avancez, et puis là où vous ne pouvez plus avancer, donc ça veut dire, Hachem ilachem lachem, Hachem va faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est pas une guerre contre l'Égypte d'avancer, mais c'est une façon de sortir de la situation. Vous ne pouvez pas sortir tout seul de la situation. Donc, c'est moi qui vais faire le travail, la guerre qu'il va falloir faire, c'est moi qui vais la faire. Mais, à partir du moment où vous ne pouvez pas, mais vous faites ce que vous pouvez. Alors, je vous dis d'avancer. Les hommes ne peuvent pas prendre l'initiative d'avancer dans la mer en disant ben, il va ouvrir la mer. Mais puisque Hachem a dit avancer, voilà, le bitachon, c'est on avance. Allez, on avance, on ne voit absolument pas comment on va s'en sortir. Simplement, c'est une confiance complète. Et ça commence par un geste de confiance complète. Donc ça commence par de la prière. Il arrive un moment où Hachem dit stop avec la prière. Il faut qu'ils avancent. Dis-leur d'avancer. Ils avancent. Ils font ce qu'ils peuvent. Et à ce moment-là, quand ils ne peuvent plus, Hachem dit à Moshe, ouvre la mer. Vous pouvez encore faire quelque chose. Fais le geste. Et le geste qui lui est prescrit est un geste intéressant parce que Hachem lui dit Veata, harem et matra, toi, soulève ton bâton, une tête qui apprend la yam. Et tends ta main sur la mer. Ouvekaéou, et fends la mer. Viyavou, bnei Israël, betochayam bayabasha. Et les bnei Israël, maintenant, ils vont entrer dans la mer, en fait, sur la yabasha, c'est-à-dire, il y aura un chemin sec dans la mer. Qu'est-ce que c'est cette histoire du bâton? Ça veut dire Harem et Matra. On pourrait même lire Harem et Matra, enlève ton bâton. C'est-à-dire, maintenant, si on lisait Harem, enlève ton bâton, mais on connaît s'il n'a pas traduit comme ça. On connaît s'il a traduit Toul. Prends ton bâton. Pourquoi il faut prendre le bâton? Et il ne lui dit pas étends le bâton sur la mer. Et ta main, étends ta main sur la mer. Alors?
Est-ce qu'il parlerait de la même langue que la main qui parle en latin?
Il ne va pas prendre le bâton dans la main gauche et étendre la main droite, non? Alors, si le bâton ne sert à rien, alors pourquoi le prendre? En vérité, moi, j'aurais bien aimé lire Harem au sens de enlève le bâton. Regardez le Sforno. On ne sait pas. Le Sforno, il dit Harem et Matra, El Haruach Kadim, Shiasim Ayam le Ferava. C'est-à-dire, avec le bâton, que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la mer en état de détruire la mer, démonter, faire en sorte que la mer soit, comme on dit, démontée. Bon, il va y avoir des murailles d'eau. Bon, la mer est démontée. Maintenant, et toi, maintenant, avec ta main, tu fends la mer. C'est-à-dire, il faut d'abord démonter la mer. Il y a un vent énorme qui souffle et fend la mer. C'est comme s'il organisait l'eau qui est démontée par le vent, il l'organise pour fabriquer les fameux 12 canaux, un canal par tribu, que les Bnei Israël vont emprunter pour traverser cette mer. Donc le bâton à la main, d'après le fourneau, ils font deux choses différentes. Bon, le bâton, il démonte la mer, mais bon, ça ne fait pas encore du pied sec. Fendre la mer complètement, c'est-à-dire ces murailles d'eau, fendre-les complètement, de telle sorte que les Bnei Israël puissent marcher au fond de la mer à pied sec. J'aurais pensé. Hachem lui dit, enlève le bâton que tu as toujours avec toi et étends ta main, et fais le travail avec la main. Pourquoi? Parce que je pensais comme ça, parce que je pensais qu'il y a, je pense toujours, il y a une progression. En fait. Quand Moshé Rabbeinu arrive chez Paro, avec son bâton, il fait quelque chose qui n'est pas de la magie, mais qui, aux yeux des Égyptiens, est de la magie. Parce qu'ils disent, tu fais de la magie chez nous, là? Mais non, on a autant que toi. On sait le faire. Il amène des écoles de magie. Il y avait en Égypte les fameuses écoles de magie, comme il y a au Brésil les écoles de samba, il y avait les écoles de magie. Donc les gosses, ils sont tous venus avec des bâtons. A priori, ces bâtons-là, c'était des serpents qui étaient drogués. Quand on les a jetés comme ça les a dédrogués, dégrisés. Donc, Moshe, il ne fait pas de la magie, mais ça a l'air de la magie. Et ça a l'air d'être une magie qui est faite avec le bâton. Je pensais que l'étape suivante, là, ici, c'est une étape où c'est plus le bâton, c'est la main. C'est l'homme lui-même. C'est plus de la magie avec des objets qui fabriquent la magie. Et je pensais que le troisième moment, c'est quand Hachem dit à Moshe, parle au rocher. C'est-à-dire, on a passé du bâton, la main et la parole. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui dise que harem veut dire ici enlève le bâton. Je ne l'ai pas tous vu, mais. Pardon? Si on dit pas qu'il y a rien. Et dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi ils vont me dire qu'il a le bâton. Je veux dire. Ça veut dire que si on lit qu'il a fait ce geste-là avec le bâton aussi, alors il n'y a pas de progression. Parce que quand il a fait le bâton, c'est qu'il y avait toujours la main qui était à la... Il tenait le bâton. Oui, mais là, pourquoi il a besoin du bâton s'il n'a pas de fonction? Je vois ici que le Kli Yakar, il ramène sur Harem et Matra, il dit que dans le Midrash, il dit que le fichier Ayu Omrim Amitzrim, Lulea Mate, Loya Yachol la Sot et Kolamissim. Ah non, voilà, j'ai trouvé. Je dis, le Kli Yakar, il dit comme je dis. Je ne sais pas, il faut juste aller jusqu'au bout. Alors, il dit, Alken, parce que les Égyptiens disaient que c'était de la magie, alors Hachem, Amar HaKadosh Baruch Hu, Salek et Matra, on était et Yadcha, qui Harem, voilà. Harem Siloukou. Et voilà exactement ça. Donc ça va. Donc ça va très bien. Ouais. Enfin, pour moi, ça va. Et lui, en plus, voilà, il dit, je vais expliquer pourquoi. Il dit, Vineni noten ta'am badavar. Lama davka bekriyat yamsuf, tiva kadosh baruch hu la'asir amate. Pour donner une raison, pourquoi justement à kriyat yamsuf, Hachem a dit d'enlever le bâton. Pourquoi il n'a pas dit à la troisième maka ou à la quatrième maka? Mais c'est le fils shiratsa kadosh baruch hu. Chiasse Moshe. Ah, כמו שרבי נתפס למטה, דוגמה אל כל דבר הנעשה למעלה. השם בונה כמשה פס דו מונד אן בא, לה מם שוז כו סקי השם פה דו מונד אן או. והנה כל המכות היו באצבע אלוקים. המכות זה לדוע דו דיו, כמו נאמר לחרטומים דה פרעה ולסאג' דה פרעה ליהודים. על כן נעשו גם למטה על ידי משה משם כי המטה דומה לאצבע. פורקוואי סקורי, למטה זה קום לדוע. אלימד, נאור זה לדוע דאלוקים. Et en bas, c'est le bâton de Moshe. Avala la yam. La cour bechol ayad. Oui, comme c'est ce qui est écrit dans la Gadat Pessah, oui. À la yam, ils ont été frappés par Yad Hashem, par la main d'Hashem. Alors il a dit. La main, c'est donc tous les doigts, c'est cinq, comme on voit dans la Gadat Pessah. C'est là-bas qu'on voit qu'il y a cinq doigts, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, très bien. OK, donc on va garder ce chat-là. Ouais. Donc, il faut. Hachem veut que les hommes participent dans toute la mesure de leurs possibilités. Ils participent à la fin. Pardon? Oui, non. Ça dépend ce que tu. C'est le chidouche de Kliyakar, de dire que harem, ça veut dire, comme je vous ai dit, je ne savais pas que. Voilà, maintenant on peut le dire ou non, Kliyakar. Oui. Donc les Bnei Israël, effectivement, ils vont être sauvés, mais à la limite, là encore, c'est pas fini, quoi. Les Égyptiens, même quand ils voient les Bnei Israël d'entrer dans la mer et la mer se fend pour eux, les Égyptiens, d'eux-mêmes, ils n'entrent pas dans l'eau. Donc c'est marqué dans le verset Yud-Zayin. Dans le 17, c'est marqué Vani ineni mechazek et lev Mitzrayim. Bon, Hachem, il a donné du courage aux Égyptiens pour entrer dans l'eau. Enfin, pour entrer même, eux, ils voyaient que la terre était, que la mer était ouverte. Mais même comme ça, ils n'osent pas entrer. C'est impressionnant. Ils peuvent se dire quand même, ce peuple juif, il est quand même un peu spécial. Ce peuple d'esclaves, quelque chose de magique, même si eux, ils pensent que c'est de la magie, mais quelque chose de super magique qui se passe pour eux. Est-ce qu'on ose avancer? Alors, Hachem a donné un coup de pouce supplémentaire pour qu'ils aient le courage de poursuivre les Bnei Israël dans la mer. Et Hachem dit toujours, quand Hachem fait une chose pareille, il explique pourquoi je fais ça. Via Doum Mitzrayim, qui a ni Hachem, Bikov di befar ou beripo ou beparasha. Les Égyptiens, ils vont savoir que je suis Hachem en battant Paro et toute son armée. Bon, alors ensuite, il y a un jeu entre les Malachim qui protègent le clan Israël, passe devant, derrière, etc. Et Moshe étend sa main à la Yam. Vayolech Hashem et Tayam, Bevoach Kadim, et Hashem fait souffler un vent énorme, avant d'est, Aza, très puissant, Kolalaila, pendant toute la nuit, et Vayasem et Tayam le Charava, ça a complètement démonté la mer. Ribaku Amay. Et les eaux ont été fondues. Donc, les Bnei Israël, maintenant, ils sont dans la mer, mais Bayabasha. Ils sont sur la terre ferme, sur la terre sèche. Vamaim et l'eau étaient la même choma. Il y avait des murs d'eau à gauche et à droite. Les Bnei Israël marchaient sur la terre ferme. Terre sèche au milieu de murailles d'eau. Et Mitzrayim s'engouffre là aussi dans la mer. Et ça a rapidement mal tourné pour les Égyptiens. Ils ont compris qu'ils étaient, il y avait les essieux, ça tournait pas, etc. Ils étaient coincés, ils ont compris. Et à un moment, ils disent, Vayomer Mitzrayim, Anoussa, fuyons. Israël, devant Israël. Et Hachem, Nilcham Lahem, de Mitzrayim. Hachem fait la guerre pour eux contre l'Égypte. Bon, ils n'arrivent pas à fuir parce que Vayomer Hachem el Moshe étend ta main sur la mer. Donc celui qui fait le geste qui a noyé l'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, les Bnei Israël, ils voient, pardon, ils voient. Vois ce qui se passe, ouais. Mais ils n'y croient pas. Mais Israël, ils pensent que les Égyptiens, hein, ils sont remontés de l'autre côté. Nous, on est montés de ce côté-là. Les Égyptiens, ils ont fait comme nous, ils sont remontés. Et encore, le Midrash dit qu'Akadosh il a ordonné au malach de la mer, que la mer recrache les corps des Égyptiens qui étaient dans l'eau. Ils ont vu tous les Égyptiens qui étaient morts, là, ils ont cru. Le passouk, regardez le passouk Lamed Aleph. Vayar Israël et Hayad Agdola Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Israël a vu la grande main Hachem a manifesté donc contre l'Égypte. Vayirou ha'am et Hachem. Du coup, ils en ont éprouvé de la yira. Ils ont craint Hachem. Vayaminu b'Hachem ou Moshe Avdo. Et à ce moment-là, Vayaminu, ils ont eu émouna, confiance en Hachem et en Moshe, son serviteur. C'est un peu compliqué. C'est quoi cette émouna-là? Ils ont eu de la Yira pour Hachem, je comprends, mais Yaminu, c'est quoi? Yaminu, c'est émouna. Mais il n'y a pas besoin d'émouna, ils ont vu ce que Hachem a fait, non? Mais ils ont bien vu que c'était Hachem, ils ont craint Hachem. Maintenant, ils ont confiance en Hachem sur quoi? Évidemment, quand tu vois une chose pareille, tu ne peux pas ne pas avoir. Enfin, est-ce que ça s'appelle de la confiance? Normalement, Emouna, c'est au-delà du rationnel, quoi. Je sais pas. C'est tout à fait rationnel de faire confiance à Hachem ici, après avoir vu tout ce qu'il a fait pour eux, non? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire ici que Vayaminu? Pardon? Oui. Oui, mais c'est. Bon, le Maharal dit comme ça, mais c'est difficile de. Enfin, il me semble que c'est difficile de dire que c'est de la Emouna. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait dire, c'est que ils ont confiance et que cette confiance, elle va. On devrait la voir se manifester après. À la prochaine épreuve, là, on verra s'ils font confiance. Maintenant, ils ont vu que Hachem s'est occupé d'eux. Vayaminu, il faudrait dire, c'est effectivement la première étape, mais on n'a pas encore vu qu'ils ont vraiment Emouna. C'est-à-dire, c'est comme si la Torah nous disait, vous allez voir que maintenant, à la prochaine épreuve, ils vont avoir confiance en Hachem. Pardon?
Quand ils sont en de la mer, c'est hyper fun.
Oui.
C'est pas un peu là.
Pas Emouna. Non, c'est marqué la Emouna, elle est après qu'ils ont vu et ils ont craint. C'est une Emouna construite à partir de la Yira. Le Rashbam, il dit sur Vayaminu Bashem, le Rashbam dit chez Af Bamidbar, pas la suite, tu vois, pas. Pardon? Mais c'est. Shavamidbar, Loyamutu. C'est ça. À partir du moment. Ah, voilà. Ouais, d'accord. Avamidbar, Loyamutu. La Emouna. Ils ont acquis ici leur père. Enfin, c'est quoi? C'est que maintenant, ce qu'ils disaient toujours avant, pourquoi tu nous as amenés crever dans le désert? Maintenant, ils croient Moshe, enfin Hachem et Moshe, qu'effectivement, dans le désert, eux, avec Hachem, ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce que Hachem s'est manifesté de telle sorte, ils sont convaincus maintenant, on peut faire confiance à Hachem. Bon, on ne va pas mourir dans le désert. C'est pour, sinon, ça n'a pas de sens, quoi.
Parce que les airs
Ouais, non, c'est pas. Mais la Torah nous annonce que, peut-être ça qu'il faut entendre dans le Maharal, la Torah nous annonce que ce qu'ils ont vécu là maintenant construit la Emouna avec laquelle ils vont faire confiance à Hachem, ils ne vont pas mourir dans le désert. Pas mourir de faim. Et à ce moment-là commence Asyashir Moshe. Bon, commence la Shira. Alors, on pose la question en général, As Yashir Moshe, littéralement, ça devrait dire As Char Moshe. Alors, As c'est alors, Char Moshe, Moshe a chanté. Yashir, c'est un futur. Alors, Ibn Ezra, il dit que c'est comme ça que ça se construit. Ibn Ezra, il dit que c'est Mishpat. Lachon Hakodesh, Lomar Lachon Atid, Tachatavar, Im Milat Az. On dit Az, alors on peut se permettre de mettre le verbe au futur, même si on parle du passé. On veut parler du passé, mais on peut construire ça avec le verbe écrit au futur. Dans la langue, en hébreu, il y a un problème entre le futur et le passé, puisqu'il y a cette histoire du vav conversif, là. Le vav qui change les choses qui sont dites en passé, en futur, etc. Donc on voit très bien que le passé et le futur, il y a des constructions grammaticales qui permettent d'utiliser un verbe au futur pour décrire quelque chose qui est de l'ordre du passé. As, alors. Ah, ça veut dire pourquoi juste à ce moment-là? Ben, c'est à ce moment-là parce que c'était fini. Alors, la grande question que je peux poser, c'est pourquoi Moshe n'a pas chanté quand ils sont sortis d'Égypte. Mais déjà, c'est suffisamment de miracles pour qu'on puisse chanter. Alors, le Kli Yakar dit, pose la question, il dit, le fi, chez Yada Moshe, chez Adayen Bnei Israël, me papukim, Be'emouna, ad she, voilà, alayam, she'eminu be'Hashem, ou Moshe Abdo, az yashir. Donc, à ce moment-là, il a commencé à chanter. Donc le As vient nous dire, il n'y a que maintenant qu'il a pu chanter. Alors comme vous savez certainement, dans le Rambam, un des Ikrei HaEmouna du Rambam, c'est Triat HaMetim. Rambam dit que un des 13 articles de foi, comme on dit du Rambam, Ce qu'il existera, juste, triatamétim, c'est la résurrection. L'Agmara demande, d'où est-ce qu'on sait, puisque tout est écrit dans la Torah, tout est, il est, dans la Torah fait allusion à tout, d'où est-ce qu'on sait, mais la Torah, triatamétim. Où est-ce qu'on voit qu'il y aura triatamétim? Et une des réponses, c'est ici. Parce que c'est marqué, parce que là, du coup, les Chachamim l'ont pris au futur. Az Yashir Moshe, c'est-à-dire alors Moshe chantera, et ça fait référence à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, Moshe chantera pour Hachem. Si Moshe va chanter pour Hachem à la fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu triatamétim, parce que Moshe Rabbeinu, il est décédé. Donc il ne peut pas chanter s'il n'y a pas eu triatamétim. Donc il y a un remez dans la Torah. Alors, c'est intéressant parce que, je crois qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, il y a une parenté, si vous voulez, entre la sortie d'Égypte et la libération finale. Il y a des psukim qui disent que Hachem dit, je ferai au moment de la libération finale, ferai les mêmes nissim que ceux que j'ai faits au moment de la sortie d'Égypte. Mais c'est pas... Quand on sortira du dernier exil, donc c'est à la fin de l'histoire, il y aura des miracles comme ceux de la sortie d'Égypte. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, il y a même des choses qui ont été dites d'une certaine manière, ou faites d'une certaine manière au moment de la sortie d'Égypte, pour qu'on voit bien que ça va se représenter de nouveau à la fin de l'histoire. Ça, ici. Si on avait écrit Az, Char, Moshe, ben on n'aurait pas de source pour Triatametim Minatora. Donc, le texte ici, il est écrit de telle sorte que ça nous fasse penser que Moshe Rabbeinu sera de nouveau là. Ça, c'est très important, c'est écrit aussi que c'est Moshe Rabbeinu qui va nous guider à ce moment-là aussi, de nouveau, avec Triatametim. Certains disent que l'idée que Yashir a à voir avec après Triatametim, dans le futur, c'est dit dans le Az, parce que Az, Alef Zayin, c'est la gematria. Ça veut dire, c'est 8, donc 1 plus 7, ouais. Et 8 pour le Maharal, et pour d'autres, 8 c'est toujours ce qui est au-delà du Olam Hazeh. Il dépasse les 8 jours de la Mila, etc. Et donc là, ici, il y a, puisque c'est écrit sous forme Alef Zayin, donc il y a aussi un remez à la fin des temps. Alors, ici, le pasouk dit, As, donc, Yashir Moshe, Uvne Israël. Moshe est l'Evne Israël, chante, chante à ce moment-là. Il chante quoi? Il chante Ashira Hazot, cette Shira qu'on va dire ici. C'est une Shira la Hachem, une Shira pour Hachem. Vayomru, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors tout à coup, c'est marqué Vayomru les morts. Et le mot les morts, ici, on ne sait pas très bien à quoi il sert. D'ordinaire, quand c'est marqué Vayedaber Hachem el Moshe les morts, ça veut dire que Hachem a parlé à Moshe pour qu'il dise. Les morts, afin qu'il soit Omer, Au Bnei Israël. Mais ici, ils sont en train de chanter tous ensemble. À qui s'adressent les mots? Tout est déjà dit. Alors, peut-être qu'il faut lire ici que chacun des Bnei Israël, ce que c'est marqué, Ashira l'Hachem. D'accord? Ashira l'Hachem, c'est au singulier. Bon, je vais chanter pour Hachem. Donc, c'est comme si chacun le disait à son voisin. Moi, j'ai envie de chanter à Hachem. Les Chachamim disent que mon cher Rabbeinu, il a eu tout à coup une envie irrépressible de chanter. Et il a chanté. Donc, si on dit que les Bnei Israël aussi ils étaient dans cet état-là, alors ça voulait chanter et je chante. Chacun l'a dit, moi je chante. Il l'a dit, donc peut-être les morts, ça veut dire ils se sont dit les uns aux autres. Un peu comme on dit dans la tfila du matin, que les malachim, ils se donnent la permission de dire Kadosh, chacun dit à l'autre. Bon, tu peux le dire, tu peux le dire. Alors ici, ce n'est pas une permission. S'il annonce, moi, j'en peux plus, je vais chanter. Et alors, ce qui est d'abord frappant dans ce texte, c'est que c'est la première fois que dans le texte de la Torah, on écrit différemment. Bon, ce n'est pas écrit avec des lignes normales. Et c'est écrit sur le modèle d'un mur en briques. On fait un mur en briques, on ne va pas mettre les briques les unes au-dessus des autres. Bon, on va en mettre une couche de briques, et la couche d'après, on va la décaler un peu d'une demi-brique. Donc un con, ça veut dire. OK? C'est clair, c'est. Eh bien, le texte, il est comme ça aussi. Mais il est meramez à un mur de briques. Les briques, évidemment, chez les Bnei Israël, ça faisait tilt. C'était ça le boulot en Égypte. Et le mur de briques construit comme ça, c'est le mur le plus solide. C'est beaucoup plus solide que si on fait des piles de briques. L'une au-dessus de l'autre. Là, si on décale, c'est comme ça. Et donc, on va dire que cette Shira, elle est archi solide. Ça veut dire, on va montrer la solidité de ce qu'Hachem a fait pour nous, quoi. Et c'est la première fois qu'on parle de chanter. Il y aura d'autres shirim dans la Torah. Ali Be'er, etc. Ou Vazilou. Mais c'est la première fois. Alors, il est clair que le chant, alors d'abord, le chant ici, on ne sait pas si c'était un chant chanté au sens de la musique. Peut-être que c'est un chant au sens de, dans un poème, chaque partie est appelée un chant. Différentes parties d'un poème, c'est des chants, des chants, des cantos, ce que vous voulez, mais c'est des chants. Par opposition à ce qui est écrit au chapitre. Non, pardon, on passe au Kaf. Regardez le verset plus bas. Kaf. Passouk dit, Vatikach Myriam Hanvia. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, elle a pris son tambourin dans ma main. ותצא לה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. Et toutes les femmes ont chanté avec elle, enfin, étaient après elle, avec des tambourins et avec des danses. Donc, elle, Betan laem Myriam, Shirul Hashem, Tigao Gaa, Souferokvo, Romavayam, la même chose que ce que les hommes ont chanté. Mais elles le chantent, certainement, elles ont de la musique. Elles ont des instruments de musique et elles dansent. Donc, si vous voulez, chez les femmes, c'est l'expression totale. Le chant avec la musique, ben, c'est l'expression la plus complète. Donc, si c'est de la poésie, alors vous avez ajouté la dimension poétique au récit qui est fait. Si en plus on ajoute de la musique instrumentale, plus des choraux, la chorale en fait. Donc, on a vraiment exprimé au maximum et la danse. Donc, on ne peut pas exprimer plus. Ben, je ne crois pas. Je pense que c'est complet dans l'expression. Ça, c'est chez les femmes. Tout le monde fait remarquer que. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont acheté, ils ont trouvé des vendeurs de tambourins, là, hein, quand ils sont sortis d'Égypte. Alors, en vérité. C'est marqué, donc, que les femmes, elles étaient sûres qu'il y aurait lieu d'utiliser le tambourin. Elles avaient suffisamment confiance en Hachem en sachant, pour savoir que c'est pas, on va pas sortir sérieux comme, ouais, ou triste, ou je sais pas, sortir d'Égypte. Voilà. Ça va être une fête. Et donc, elles ont pris avec elles les tambourins. Les hommes n'ont pas pris de tambourin. Les hommes ne dansent pas. Je ne sais pas s'ils chantent, au sens si la musique ou c'est simplement les paroles. Est-ce que Moshe Rabbeinu était un chanteur? Chez les Lévites, il y avait deux sortes de jobs chez les Lévites. C'était Meshorer. Il y avait des Lévites qui étaient préposés à ouvrir et fermer les portes. C'est le Shoaer, la Shunshaar. Ils ouvrirent et se fermer les portes. Il y avait d'autres Lévites qui étaient les chanteurs. Parce qu'on chantait. Avec les corbanotes, on chantait. Mais le chant n'est sûrement pas le chant tel qu'on chante aujourd'hui, mais peut-être un chant. J'ai entendu des fois des musiques dont on disait que c'était des musiques de l'Antiquité. C'est plutôt, si ça vous dit quelque chose, c'est plutôt le parler chanté de Schoenberg ou un truc de Moïse et Aaron. D'accord? C'est-à-dire c'est un peu comme une cantillation. C'est-à-dire c'est il n'y a pas de, il n'y a pas, ben, chercher le, Hut, je sais pas combien, là-haut. Bon, simplement, c'est quand il est. Alors, ça, c'est chanté, probablement. Je crois pas que, dans l'Antiquité, je crois pas qu'il y avait un chant. Je sais pas, je connais pas vraiment l'histoire de la musique, mais je crois pas qu'on chantait. Comme nous. Comme nous. Et donc, mais en tout cas, c'est déjà chez Moshe Rabbeinu et chez l'Ebné Israël, c'est la forme la plus avancée qu'ils connaissent, quoi, qu'ils pratiquent. S'ils n'ont pas chanté, alors je ne sais pas pourquoi, parce que Moshe Rabbeinu, il est Lévi, donc j'ai jamais entendu que c'était lui qui ouvre les portes. Donc, il voulait qu'il chante. Mais tous les ministres ne sont pas des Lévites, mais ça n'empêche pas de chanter. C'est intéressant de voir que ce sont les femmes qui chantent. Les femmes, c'est sûr qu'elles ont chanté, parce qu'il y avait de la musique. On peut aussi dire que on peut aussi dire que le tambourin était simplement pour marquer un certain rythme, une façon de parler de façon saccadée, je sais pas. Mais a priori, elles nous ont chanté, surtout qu'elles ont dansé. Donc, il fallait au moins qu'il y ait du rythme, quoi. C'est pas de rythme, on peut attendre, on va danser. Bon, le tambourin, c'est quelque chose qui, a priori, sert seulement à marquer le rythme. Ça fait pas de la musique. Donc ils ont chanté. Ils ont choisi une expression plus expressive que simplement de le dire, de faire une bracha, une bénédiction. On peut se demander, c'est quoi chanter pour Hachem? A priori, ça veut dire que c'est sur le modèle de chanter pour un roi ou pour quelqu'un. Chanter pour un homme, quoi. Pour un être humain. Les korbanot qu'on apporte à Hachem, c'est les korbanot, lui, il n'a besoin de rien, mais c'est manger, boire, tout, hein. Manger, boire, ouais. On amène du liquide et on amène du solide. Exactement ce que sont les balancements, c'est pas très, c'est présenté, quoi. Présente les bikourim ou bien, on balance seulement. C'est une préparation présentée. Normalement, c'est présenté avant de consommer. Ouais, les courriers vont être mangés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers mots dans le contenu de ce qu'ils ont dit dans le chant, Shir HaLachem, Ki Gao Ga. C'est un doublet, Gaor Ga. Bon, ça, c'est classique en hébreu. Alors, il va quand même être interprété, quoi. Rachid dit, le kefel, le doublet, là, c'est pour dire qu'Hachem a fait quelque chose. Chez Ifchar le Bassar Vadam, la sotte, que ou l'incham bechavero, ou min gaber alav, ma pile ou min asus. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre un cavalier? On le fait tomber son cheval. Et l'accent, il est mis ici sur le fait que sous verochvo rama bayam. À quand je me retrouve, les cavaliers égyptiens, sur leur cheval, ils sont pas tombés des chevaux. Hachem a pris le cavalier avec son cheval et il l'a monté, enfin, l'eau l'a fait monter, qui tombe de haut, quoi, quelque part, et ensuite il l'a jeté dans la mer. Et il l'a noyé sans que on sépare jamais le cavalier et le cheval. Et ça, alors, Rachid dit, c'est ça que, c'est assez spécifique de ce que Hachem peut faire et que les hommes ne peuvent pas faire. Bon, mais quels sont Le verbe en question, qui est gaoga. Gao, c'est la chaîne orgueil. Je vais chanter pour Hachem. Qui gaoga. Parce qu'il s'est enorgueilli. Alors, on a déjà dit quelquefois que l'orgueil est un vilain défaut. Alors pourquoi on dit qu'on chante pour Hachem parce qu'il s'est enorgueilli? C'est parce que l'orgueil est un vilain défaut pour les hommes. C'est le défaut des hommes qui se prennent pour Dieu. Mais Hachem, il est. Donc, il est. Le seul qui peut s'enorgueillir, si on veut, ben c'est lui, c'est Hachem. Lui, il est Hachem. L'orgueilleux, c'est l'homme qui s'imagine qu'il est Dieu. Au point que Hachem dit, Hazal dit, ce qu'Hachem dit, l'orgueilleux et moi, on n'a pas de place tous les deux dans le même monde. C'est lui ou moi. Donc l'orgueil, c'est la pire des choses. Mais pour Hachem, c'est justement le contraire. Pourquoi c'est la pire des choses? Parce que c'est l'attribut d'Hachem. Dans la Shir Shelyom, que vous allez dire demain matin, Hachem Malach, Géout, Hachem s'est revêtu d'orgueil. Le manteau d'Hachem, c'est l'orgueil. Donc, on comprend que la première louange qui est dite dans cette Shira, c'est de dire sur Hachem quelque chose qui marque qu'il est Hachem. Par la suite, ils vont dire Azib Zimratka, Vaili Lishua. Asie, il est ma force. Ma force. Mais bon, ça, Hachem, c'est la véritable force. Mais on utilise aussi, il est ma force pour, si quelqu'un, il a un roi puissant, ben, mon roi est ma force. Mais Gao, ça peut se dire pour personne. Sauf pour Hachem. C'est pour ça que la première chose qui est dite, c'est Gaoga, Gava, l'orgueil. Et ensuite, il y a ce mot de Zimratka. Difficile à traduire. Comment vous traduisez Zimratka? Comment ils traduisent là? Toi, tu as une traduction et toi aussi, tu as une traduction.
Bon.
Hein?
Bon.
Non, Zimra. Ah, louange. Ah, oui. Alors, c'est ça. Alors, on peut dire, il est ma force et la louange d'Hachem. Un peu compliqué. Ma force et mal. Et ma, comment alors, comment ça fait la, comment elle marche la phrase alors?
La puissance et la vengeance est liée dans sa vie.
Dieu est la vengeance. Il veut dire que quoi que. Comme ils mettent le K, K c'est un nom divin, oui. C'est la fin de. C'est Yud-Ké, c'est le début du tétragramme, ou c'est la fin de Hallelujah, si on dit que c'est deux mots. Et là, si on mettait le K au début, alors ça veut dire K et Ozi, il est ma force, Vezimra. Alors, dans le mot Zimra, il y a la racine Zemer. Zemer, c'est le mot qui donne Zmirot. Zmirot, c'est des cantiques, des chants. Mais le mot Zemer, il est en parenté avec le verbe Zomer. Le verbe Zomer, C'est une melacha dans Shabbat, Zomer, qui s'appelle Elagé. Elagé, c'est enlever les branches qui prennent de l'énergie à l'arbre pour permettre aux branches principales de mieux pousser. Alors, pourquoi les smirotes, ça s'appelle smirotes? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec l'élagage? Peut-être rien du tout, mais si on pense que c'est la même racine, si... Même si c'est pas grammaticalement obligatoirement comme ça, mais ça sonne quand même. Dans Zimra, on entend quand même obligatoirement Zemer. Et Zemer, c'est une mélodie, c'est une chanson, c'est un chant. Alors, l'élagage, dans les Zemirot, on peut dire que les Zemirot, c'est un travail d'élagage pour mettre en évidence les points plus importants que j'ai, les louanges les plus importantes que j'ai à dire sur Hachem. C'est-à-dire, c'est choisir les louanges les plus efficaces, les plus puissantes. Alors, on peut dire que Ozim c'est Vaïli, il a été mon salut, il m'a apporté le salut, il m'a sauvé. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il a montré qu'il était ma force en me sauvant, et aussi puisqu'il m'a sauvé, alors ça me permet de dire une des louanges très importantes le concernant Hachem, qui est, il est un sauveur. On peut compter sur lui pour le sauver. Donc, il a fait quelque chose que seul Hachem peut faire. Deuxièmement, il est un sauveur, c'est-à-dire il est à la fois ma force et la plus grande louange que je puisse faire, comme si je vais pousser, je vais monter cet élagage au sens de, pas ce que j'enlève, mais j'enlève pour que ça pousse mieux. Bon, donc je vais dire tout de suite, d'emblée, laquelle est la louange la plus importante. Ben c'est ça, il est mon sauveur. Pour moi, il m'a donné non seulement il m'a donné la vie, mais il me sauve. Il me sauve en permanence. Et ça continue. Ze keli ve'anveu. Eloke avi va'romemen. Ze, normalement dans la Torah, ze, c'est ce qu'on peut montrer du doigt. Alors, ça veut dire que dans la Shira, on dit que on a vu quelque chose qu'on pouvait montrer du doigt. Je vous rappelle ce que les Chazal disent, que Ra'ata Shifra Alayam, que n'importe quelle servante dans le clan d'Israël a vu au moment du passage de la mer, elle a vu plus concernant Hachem que les Nevi'im de Yeshayahu et Hezkel. Plus que Isaïe et Ézéchiel, ça veut dire qu'elle a une vision, il y a une vision de quelque chose au point qu'elle peut dire, Zé, ah, c'est lui. Quelque part, eux, ils ont vraiment vu du flou, quoi. Ils ont vu le chariot divin, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que Razan dit. Et à part ça, à cause du Zé, il y a tout le Midrash dont vous avez déjà entendu parler, probablement, qui est que sont sortis à ce moment-là tous les enfants qui avaient été sous terre, protégés. Le Midrash qui dit que quand les Égyptiens ont voulu tuer les enfants, les femmes ont accouché, les enfants, ils se sont enfoncés dans la terre, ils ont été pris en charge, de sorte ils ont grandi, et après, ils sont sortis des troupeaux entiers d'enfants. Et là, eux, ils sont sortis, ils ont dit, c'est lui qui s'occupait de nous quand on était sur la terre. une façon de parler, Midrash. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose d'extrêmement puissant, VHM à l'œuvre pour les servir, pour les sauver, quoi. Et alors maintenant, ils disaient, Kelly, celui-là, il est mon Dieu. Ve'anvehu. Alors, ve'anvehu, le verset, le morceau de verset, Zekeli ve'anvehu, c'est un verset très important, parce que c'est le verset à partir duquel on apprend qu'il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle Hidur Mitzvah. Les mitzvot, elles ont été données. Par exemple, on te dit, il y a une mitzvah de manger le soir du Seder, il y a une mitzvah de manger 30 grammes de matzah. Okay. Bon, alors c'est ça, je mange 30 grammes de matzah et j'arrête, ça va. Il y a une mitzvah de prendre l'arba minim, voilà, je prends un etrog, un loulav, hein. Mais à la limite, ce qui nous est dit, bon, c'est le minimum, pas syndical, mais obligatoirement, mais bon, c'est ce avec quoi on s'acquitte de la mitzvah. Et maintenant, on peut avoir envie d'ajouter une touche esthétique ou d'essayer de faire mieux. J'ai une mitzvah qui me parle particulièrement. J'ai envie de réfléchir comment je peux faire cette mitzvah de façon plus parfaite, si on peut parler comme ça. Enfin, disons, peut-être c'est seulement de telle sorte qu'elle me parle mieux. C'est sûrement l'embellissement, il est évidemment personnel. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi j'ai besoin d'un verset pour ça? Alors, par exemple, vous savez que dans la construction du Mishkan ou du Beth Amikdash, on ne pouvait pas faire des Hidourim. Là-bas, dans ce qui était touché au Beth Amikdash, on doit faire exactement ce qui a été prescrit et on ne peut pas du tout ajouter quoi que ce soit. Si on ajoute, on tombe dans l'idolâtrie. Parce qu'on est vraiment sur le fil du rasoir avec tout ce truc. Donc, si vous supposez que vous ayez, je ne sais pas, un très, très, très beau bijou, un très, très beau diamant, et vous dites, qu'est-ce que je peux faire de ce diamant? Je vais l'enchâsser dans le Aron HaKodesh. Bon, je vais le mettre, alors, le plus beau diamant, je cherche l'endroit le plus extraordinaire, je vais l'enchâsser, je vais le travailler, l'inclure dans le. C'est un issur, le mot. Il ne faut pas changer. Le Aron HaKodesh, il a des dimensions. On sait qu'il y a une couche de bois, il y a une couche d'or, une couche d'or, et puis il y a le couvercle, et puis dans le couvercle, il y a les Krouvim qui sont prises là. Et c'est tout. Et si tu veux faire les Krouvim en argent, est-ce que toi, tu penses que l'argent, c'est plus beau que l'or? Avodah. Et si tu veux faire quatre Krouvim au lieu de deux, ça va là. On ne peut pas rien bouger du tout. Et on pourrait se demander, est-ce que les mitzvot, elles aussi, elles doivent être faites comme elles ont été dites, et on n'a pas la latitude d'embellir. Donc on a un passouk ici qui vient nous dire qu'on a le droit d'embellir. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, elle discute combien on peut dépenser pour ajouter du hidour à la mitzvah. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et donc, c'est-à-dire, voilà, quelque part, il m'a sauvé et moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose de plus. Plus que ce que on va devoir faire. Ils n'ont pas encore reçu la Torah ici. Mais on a peut-être un irrépressible besoin de faire quelque chose de plus. Mais tu peux. Dans le monde des mitzvot, tu vas pouvoir. Voilà, on s'arrête là.